Yes, bonjour, vous allez bien? Content de vous voir ce matin. Bienvenue à tous ceux qui nous visitent. Je sais que c'est la fête des pères. Plusieurs d'entre nous au CEP sont en visite à l'extérieur et inversement, plusieurs ici sont en visite à l'occasion de cette période des fêtes. Et j'en profite pour aussi saluer tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent sur Internet, qui écoutent ce message. Peut-être vous êtes présentement dans votre voiture, le smartphone dans les oreilles ou chez vous, peu importe. Alors, on vous salue aussi de loin. Et j'aimerais souhaiter joyeuses fêtes des pères. Yes, parce que c'est aujourd'hui, je pense. Je sais que c'est une fête commerciale, vous savez. Il y a au-delà, depuis plus de 20 années que je suis dans le ministère et chrétien, depuis plus de 20 ans, la grande majorité, alors quand tu dis la grande majorité, c'est presque la totalité. La grande majorité des messages, des prédications que j'ai entendues étaient, lorsque venait le temps de la fête des mères, était un temps pour valoriser les dames. Et quand venait le temps de la fête des pères, la grande majorité des messages que j'ai entendus, c'était pour lancer des reproches aux hommes. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai rarement entendu des messages qui sont venus valoriser les hommes. Et il y a plein de blagues qui se font là-dessus. Et je sais que là, c'est, vu que je suis un gars, ben, ça fait un peu parti pris. Mais on réalise pas parfois à quel point est-ce qu'il y a des hommes qui vivent une pression incroyable dans leur vie personnelle, dans leur foyer. Et c'est un peu comme à la fête des mères, on offre les fleurs pour reprendre l'idée que mon ami, mon cher ami Guétan, pasteur Guétan au Québec, mentionnait, et j'aime, c'est tellement ça. C'est comme si on offre des fleurs aux dames lors de la fête des mères, et à la fête des pères, on lance le pot sur les hommes. Et ce matin, j'ai pas envie de lancer le pot sur personne. Donc, un message qui s'intitule « La caverne des leaders », qui n'est pas forcément centré uniquement sur la fête des pères, qui nous rejoint tous, mais je crois que c'est, en tout cas moi, c'est un message qui me parle beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on puisse imaginer quelques instants, peut-être nous n'avons pas tous assisté à des combats de boxe dans un ring, mais imaginez ici qu'il y a dans ce lieu un ring avec deux combattants, et j'aimerais vous les présenter. Et ces deux combattants sont deux mêmes personnes. Voici deux combattants dans un même ring, mais ces combattants-là sont deux mêmes personnes identiques, non pas des jumeaux, vraiment la même personne. Il y a Philippe d'un côté et Philippe de l'autre. Il y a Lisa d'un côté et Elisa de l'autre. Elisa. Peu importe, la même personne. Alors voici, je vous présente cet homme-là. Vous allez tout de suite imaginer, savoir qui est cet homme-là. Et c'est parti. Je vous présente, mesdames et messieurs, à ma droite, l'homme qui a reçu la qualification par avance, l'onction, qui a suivi cette cérémonie pour être choisi comme le roi d'Israël par anticipation. Voici, à ma droite, cet homme qui est devenu le musicien préféré, auteur, compositeur, hors pair, musicien préféré du roi d'Israël, Saül. Voici, à ma droite, l'homme qui est vainqueur de Goliath, l'homme qui a décapité la tête du géant, l'homme qui, plus a été promu chef de l'armée de tout Israël. Voici à ma droite l'homme où partout où il passait, il remportait des victoires. Voici à ma droite l'homme qui avait la faveur du peuple. Voici à ma droite l'homme qui était adulé par les serviteurs même du roi. Je vous présente cet homme-là. Voici l'homme dont le nom faisait l'objet de toutes les chansons. Alors que je vous présente maintenant l'homme dont le nom a fait l'objet de toutes les chansons. Voici David. Incroyable. David est au sommet de son succès. Son nom est chanté par tous les peuples, les villes d'Israël. On chantait son nom. On disait, Saül a frappé ses mille. C'est une chanson, question à réponse. Saül a frappé ses mille. Et tout le monde répondait, David ses 10 000. Ok, on fait le test. Saül a frappé ses mille. Non, mais t'imagines ton nom, mets ton nom là-dedans. Mets ton nom. Il y a Andy qui a frappé ses 10 000. Craig a frappé ses 10 000. Nelly a frappé ses 10 000. Aurélie a frappé ses 10 000. Hey, ton nom est dans toutes les chansons du pays de Jex. C'est pire encore, Israël, c'est encore plus grand. Ça, c'est le David, à ma droite. Je vous présente le même homme. On a chanté tout à l'heure. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. On va voir l'histoire d'un homme à qui tout a été donné et tout a été repris. Un homme qui va passer du temps dans la caverne. À ma droite, voici cet homme-là. Et à ma gauche, alors que David est au sommet de son succès, il est au sommet de son succès quand sa vie tourne au cauchemar. Et ça, c'est vous et moi. Il y a des saisons dans notre vie comme ça où tout va bien. Et tout d'un coup, tout vire au cauchemar. Et voici à ma gauche l'homme qui a été victime de la furieuse jalousie du roi. L'homme dont le roi Saül cherche à tuer. L'homme qui n'a pas le choix de quitter sa femme pour sauver sa vie, Michal, sa femme Michal. L'homme qui a été privé, qui est privé de son mentor spirituel, Samuel. L'homme qui perd contact avec son meilleur ami, avec son pote, en québécois avec son chum, avec son frère de guerre, Jonathan. L'homme dont tous les soldats d'Israël pourchassent, l'homme qui devient la traque de toute l'armée d'Israël. L'homme qui, pour sauver sa vie, doit s'humilier alors qu'il arrive en terre philistine auprès d'un roi philistin. Ils le reconnaissent et David est obligé de se faire passer pour fou afin de sauver sa peau. L'homme qui est obligé de s'humilier en faisant le fou pour échapper à un des rois philistins. L'homme qui inspirait les chants devient un fugitif et il doit fuir. Deux hommes. Et c'est là qu'on arrive à 1 Samuel 22, chapitre 1. Alors que David est obligé de fuir. Là-dessus, David quitta la ville de Gath et alla se réfugier dans la grotte ou dans la caverne d'Adoulam. Ce n'est pas la caverne d'Ali Baba ou d'Aladin, la caverne d'Adoulam. Il est dans la caverne. Cet homme dont le nom était chanté partout, cet homme qui avait la faveur de tout le monde, cet homme qui avait tout, qui avait tranché la tête de Goliath, le voici en petite boule dans une caverne. Que se passe-t-il dans cette caverne? On va voir qu'est-ce qui va se passer dans cette caverne. Parce que le psaume 142 a été composé dans cette caverne. Que fais-tu lorsque tu es dans une caverne? Peut-être que tu es dans une caverne aujourd'hui. Et je prie que ce message puisse vous équiper pour toutes les cavernes futures, parce que je peux, entre guillemets, vous le prophétiser, vous allez connaître des cavernes. Je vais connaître encore des cavernes. Ce n'est pas les hommes des cavernes ce matin, mais pas loin. Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes dans la caverne? Regardons, penchons-nous quelques instants sur ce moment où David se réfugie, il est tout seul dans cette caverne, il va composer le psaume 142. Et c'est son cœur, c'est ses tripes. À pleine voix, je crie vers l'Éternel. À pleine voix, je supplie l'Éternel. Et devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, c'est toi qui sais sur quel sentier je marche. Sur mon chemin, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite. Il n'y a plus personne, pas même un seul qui veuille me reconnaître, qui veuille me connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. « Ô Éternel, je fais appel à toi et je m'écris. Tu es mon seul abri, tu es mon bien au pays des vivants. Sois attentif à mes supplications car j'ai touché au fond de la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs, ils sont trop forts, bien plus puissants que moi. Libère-moi car je suis en prison pour que je puisse te rendre mon hommage. Autour de moi, les justes feront cercle quand tu m'auras comblé de bienfaits. » Wow! C'est ce que David a composé dans la caverne, dans son moment de solitude. Quel psaume, lisez-le attentivement lorsque vous, durant cette semaine, et vous allez voir des richesses extraordinaires. Il s'écrie, il se lamente, il supplie, il confesse, ils sont bien plus puissants que moi. Et j'aime beaucoup la fin. Il dit, libère-moi, car je suis en prison, pour que l'on puisse savoir, comment est-ce que j'ai bien réagi. Libère-moi pour que l'on sache, qu'on le connaisse encore, que mon nom est encore bon, que l'on sache combien j'ai bien réagi, que l'on sache... Non, il ne dit pas ça. Il dit, libère-moi pour que je puisse te rendre hommage. C'est le cœur de David. Libère-moi, parce que si tu me libères, je vais être entouré d'hommes. Il va y avoir un cercle autour de moi où tous ceux et celles qui te connaissent vont acclamer ton nom. Pas mon nom, mais ton nom, parce que tu m'as libéré dans cette caverne. C'est la réaction de David dans cette caverne. La caverne est ce lieu de solitude, est ce lieu d'humidité, ce lieu de remise en question, ce lieu où peut-être ce n'est pas un échec, mais il y a en tout cas le sentiment de l'échec. C'est ce lieu d'incompréhension, c'est ce lieu de peur, c'est ce lieu de noirceur et d'inconnu face à l'avenir. C'est ce lieu d'incompréhension. J'aimerais dire que la plupart un des moyens que Dieu utilise pour notre transformation sont nos propres incompréhensions. Sur le coup, on ne comprend pas, mais on ne réalise pas, mais Dieu est en train de nous transformer. C'est ce lieu de noirceur, d'inconnu, d'incompréhension, de terreur. C'est ce lieu où tu te sens seul. C'est peut-être ton lieu aujourd'hui, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Peut-être que tu connais quelqu'un comme ça aussi dans cette situation. Plusieurs, entre guillemets, leçons que nous allons voir aujourd'hui à propos de cette caverne. La première leçon que j'aimerais tirer, c'est que dans la caverne, tes pires oppressions peuvent donner vie à tes meilleures compositions. Dans la caverne, tes pires oppressions peuvent donner vie, naissance, à tes meilleures compositions, à tes meilleures expressions, à tes meilleures intercessions. Les artistes le savent, hein, que ce soit dans le domaine de la peinture ou de la composition de chants ou de textes, ou peu importe, souvent les meilleures œuvres d'art ont été faites dans la douleur. Alors, tu es peut-être dans une caverne, mais j'aimerais te dire que le meilleur est en train de sortir de toi. Le meilleur est en train de sortir de toi. Ne te décourage pas. On l'a vu, il a composé le psaume 142, il y en a d'autres aussi. Quelle belle composition, c'est un chant. Il chante, il est dans la caverne, il chante, il se lamente, mais il chante, il regarde à Jésus, il regarde à Dieu plutôt à cette époque-là. La deuxième leçon que j'aimerais retirer, celle-ci, tellement importante. Ne laisse pas la caverne de tes douleurs voler à Dieu ton cœur. Tu es dans la souffrance présentement? Ne laisse pas la caverne de tes douleurs, ne laisse pas tes douleurs venir voler à Dieu ton cœur. Ne permets pas à ta souffrance, et je ne suis pas en train de minimiser, de faire le déni, de faire l'autruche, c'est pas grave. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais ne permets pas à ta douleur de venir voler le cœur que tu as pour Dieu, de venir voler à Dieu ce cœur d'adoration. David, il est dans la détresse, il est dans la terreur, il est dans l'inconnu, dans l'incompréhension, dans la solitude, mais il n'y a rien qui est venu voler son cœur qui appartenait à Dieu. Il continue à regarder à Dieu. Il dit, je suis dans une caverne, c'est mon refuge physique, mais tu es mon refuge, tu es mon abri le plus sûr sur la terre des vivants. Ne permets pas, ne laisse pas la caverne de tes douleurs voler à Dieu ton cœur. Et des hommes dans ce lieu, vous avez ce que j'appellerais des douleurs caverneuses, profondes, refoulées, enfouies depuis des années. Ça gruge par le fond. J'aimerais te dire, relève la tête, regarde à Dieu. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas terminé. Et il fait sa prière, hein, libère-moi. Comment est-ce que Dieu va s'y prendre pour libérer cet homme, pour libérer son homme? 1 Samuel 22, on revient à 1 Samuel, on a quitté psaume 142. Là, on sait qu'il a fait sa prière, et regardez ici. Alors qu'il nous est dit qu'il a fui dans cette caverne d'Adoulam, dans le même verset, dans la même foulée, lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allèrent l'y rejoindre. Wow! Il va se cacher, et la nouvelle fait le tour, et c'est écrit, lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allèrent l'y rejoindre. Quand on lit ça vite, mais rappelez-vous que David est ce jeune homme qui avait été littéralement oublié, négligé, sous-estimé, lorsque le prophète Samuel est venu choisir un successeur au roi Saül, au roi d'Israël. Il va voir le père de David et tous ses frères. Il dit, non, c'est pas lui. T'as pas un autre fils? Ah oui, c'est vrai! Ouais, il est jeune. Il garde les moutons. M'appelle-le. Et c'est lui que Dieu va choisir comme roi. Rappelez-vous que David est ce jeune homme qui va amener le lunch à ses frères, alors que Goliath est en train de menacer tout Israël, il y a ce combat-là. Et pendant que David va amener ce lunch-là, il voit le combat, puis il dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Tac, il prend connaissance. Wow, il dit, c'est qui ça? Moi, je me le fais. Goliath, je me le fais. Et là, ses frères vont le rejeter. Ses frères vont l'intimider. Ses frères vont dire, hey, t'es qui toi? Ses frères vont l'accuser en disant, ouais, t'es venu ici pour te montrer, t'es venu ici pour te vanter. Et c'est cette même famille-là qui le rejoint dans la caverne. Wow! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les gars, mais moi, quand ça va mal, j'aime bien aller dans ma caverne. Foutez-moi la paix. Excusez-moi le terme. On est dans la vraie vie. Moi, je suis comme ça. Je pense qu'il y a des femmes aussi comme ça. Mais quand tu as mal, là, tu ne veux pas que quelqu'un vienne te voir. Souvent, c'est la réaction que nous avons. Mais là, non seulement il y a quelqu'un qui vient le voir, mais là, c'est sa même famille qu'il avait oublié quand le prophète est arrivé et puis qu'il l'a accusé quand il est venu pour se présenter devant Goliath. Goliath qui, à l'heure où on se parle, a été vaincu. Il fallait qu'il y ait dans le cœur de David quelque chose qui soit fort pour pouvoir, non seulement j'ai mal, puis en plus tu viens me déranger, puis toi, hey, voilà. Mais Dieu va se servir de sa propre famille, et il y en a d'autres qui vont le rejoindre, on va le voir. La réponse de Dieu à nos prières passe souvent par des gens. Dieu a voulu sauver l'humanité, il a passé par un homme, Jésus. La majorité, il y a eu des fois, il y a eu des interventions comme « ça vient de nulle part ni ailleurs », mais même quand tu creuses, tu t'aperçois qu'il y a des... Mais la majorité des réponses que j'ai reçues de la part de Dieu, il n'y a rien de « ouh, mystique, un ange est arrivé ». Non, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui est rentré dans ma caverne, puis qui m'a relevé. Troisième leçon, là, vous allez tous vous identifier, c'est sûr. La caverne fait rejaillir des profondeurs nos vrais amis. La caverne fait rejaillir des profondeurs tes vrais amis. On le sait, c'est quand ça va mal que tu sais qui est avec toi. C'est quand tu es dans le pire moment de ta vie que tu sais sur qui tu peux compter. C'est pas quand ça va bien, c'est pas quand tu as le portefeuille plein, c'est pas quand tu as une bonne réputation au boulot, c'est pas quand tu es populaire, c'est quand tu es dans le trou. Quand tu n'as plus rien, c'est là que tu sais sur qui tu peux compter. Alors ça fait mal la caverne, mais la caverne elle a une bonne chose, c'est qu'elle fait rejaillir des profondeurs nos vrais amis. Mais c'est dur, parce que ça signifie aussi faire le deuil sur d'autres qu'on pensait être des amis. Mais dans ces moments-là, Dieu est en train de façonner le cœur, est en train de travailler un caractère. Je m'adresse à tous les hommes, à tous les pères, à tous les hommes et femmes aussi de cette église, mais je sais que le côté masculin, on est « non, mais je suis capable, je suis seul, là, c'est bon, j'arrive. » Tu as besoin d'un ami. Peu importe ton tempérament, que tu sois extraverti, introverti, informaticien, sportif de haut niveau, peu importe, tu as besoin d'un ami. Tu peux pas rester seul, que tu sois marié, célibataire, divorcé, remarié, peu importe, tu as besoin d'un ami. Tu as besoin de quelqu'un. Je ne serais pas ici aujourd'hui si j'avais pas eu des vrais amis autour de moi. Merci pour le Seigneur, mais merci pour le Seigneur qui a envoyé des amis dans ma caverne. Des frères, des sœurs, des compagnons qui sont venus me relever. Merci Seigneur pour l'Église. Merci Seigneur pour l'Église. Je pourrais faire des messages complets sur le nombre de fois où j'ai été blessé dans l'Église, le nombre de fois où l'amertume a pris place dans mon cœur à cause de frères dans la foi, le nombre de fois où j'aurais voulu abandonner à cause de l'Église, je généralise, des gens qui croyaient en Dieu, qui aimaient le Seigneur. Je pourrais écrire des livres comme bien des gens, mais je pourrais dresser une encyclopédie complète sur toutes les fois où l'Église m'a béni, m'a relevé, a été une source d'encouragement. T'as besoin d'un ami, t'as besoin de quelqu'un qui va marcher avec toi, qui va te supporter. D'ailleurs, un jour, peut-être, je sais pas, un jour quand je serai à la retraite, parce que je m'approche, fait que je suis déjà en train de planifier. Là, ça va vite le temps. Puis on m'a dit, plus tu vieillis, puis plus le temps passe vite. Puis c'est drôle, mais plus je vieillis, et plus le temps passe vite. Écoutons la sagesse de nos aînés. Mais entre vous et moi, je sais pas, mais j'aimerais, un de mes rêves lorsque je serai à la retraite, c'est plutôt que d'écrire un livre sur la croissance de l'Église, sur le leadership, ministère, j'aimerais un jour écrire un livre sur comment est-ce que l'Église m'a fait grandir, moi comme pasteur et comme individu. Comme individu et comme pasteur. Et souvent les pasteurs disent « Ok, voilà, faut nourrir l'Église, faut diriger, faut conduire, pas diriger dans le sens négatif, faut conduire, faut aimer, faut... Ok, on y va, c'est là... » Mais j'aimerais vous dire que l'Église est une source de bénédiction pour nous aussi comme pasteurs. T'as besoin d'un ami. Je ne serais pas là si vous seriez pas là. Je ne serais pas là s'il n'y a pas d'amis dans ma vie. Choisis tes amis. Tu es à l'école, tu es au lycée, tu es au collège. Choisis tes amis. J'allais dire teste-les. Bon, si tu les testes, là, ce n'est plus des amis. C'est déjà ça en dit long déjà. Mais je veux dire, éprouve. Tu as besoin d'amis. L'autre leçon, de l'autre côté du rideau, c'est trouve quelqu'un qui est dans une caverne et devient la réponse de Dieu à sa prière en le rejoignant. Trouve quelqu'un qui est dans une caverne, trouve quelqu'un qui est dans la souffrance, trouve quelqu'un qui a mal et devient la réponse physique de Dieu à sa prière. Il y a des gens autour de toi, peut-être assis à côté de toi présentement ou que tu connais quelque part, qui sont dans une caverne de souffrance, de douleur. Eh bien, rentre dans dans sa caverne. Fais comme les amis, la famille de David. Rejoins-le. On est reconnaissant après avoir franchi l'étape de je veux rien savoir, je veux être seul. On est reconnaissant d'avoir des amis qui viennent dans notre caverne. Mais est-ce qu'on peut à notre tour être cet ami, ce frère, cette sœur, ce compatriote de la foi qui rentre dans la caverne de ceux et celles qui souffrent? Et je ne parle pas seulement dans la caverne de ceux et celles qui souffrent, qui croient en Dieu, qui ont une spiritualité chrétienne ou quoi que ce soit. Trouve quelqu'un qui souffre à ton boulot, qu'il soit dans l'église, qu'il soit pas dans l'église, qu'il soit... Peu importe. Trouve quelqu'un qui souffre et rentre dans sa caverne. Et amène-lui ce que tu as reçu, amène-lui ce que tu connais de la part de Dieu. Amène-le. Il y a des gens dans ma vie où ce ne sont pas des croyants pratiquants. Ce ne sont pas des gens qui vont dans une église, mais c'est des amis personnels, intimes, et je suis reconnaissant à Dieu pour eux. Ils m'ont sorti du trou à plusieurs reprises. Et à l'inverse, il y a des gens qui ne vont pas dans les églises, qui n'ont pas la même foi que je pourrais avoir, mais qui, à un moment ou à un autre, ont été reconnaissants d'avoir un chrétien qui est venu s'asseoir à côté puis dire « je suis là ». Puis je ne suis pas là pour te vendre ma salade évangélique. Je suis là pour t'aimer. Je suis là pour pleurer avec toi. Puis si tu me le permets, je suis même là pour prier pour toi. Puis donne-moi tes nouvelles parce que je veux vraiment que tu t'en sortes. Et je crois que ça vaut toutes les références qu'on peut balancer à travers la fenêtre pour amener quelqu'un à comprendre que Jésus est amour. Va dans sa caverne, tu n'auras quasiment pas besoin de parler. Il va comprendre que Dieu est amour. Trouvons quelqu'un. Et c'est la raison d'être, c'est notre rôle et notre raison d'être en tant qu'Église. C'est ce que vous faites déjà, c'est ce que nous faisons du mieux que l'on peut. Leçon 5, la caverne est ce lieu où Dieu prend de son temps pour nous alors que nous pensons perdre le nôtre. Tu es peut-être dans une caverne, tu as l'impression de perdre ton temps. L'impression c'est foutu. L'impression de tourner en rond. Ta caverne, c'est peut-être cette saison où tu es dans le chômage, je ne sais pas pourquoi. Ça dure. Cette caverne, c'est une décision avec laquelle tu dois dealer, tu dois gérer. Ça dure. Cette caverne, c'est peut-être ce verdict de maladie que tu as entendu et tu ne sais pas, et tu es pris là. C'est ça ta caverne, c'est ça ta souffrance, tu es pris avec ça. Puis là, tu as l'impression que tous tes projets viennent de boycotter. On connaît des gens parmi nous, ici, qui avaient des projets et bam, accident, et puis là, tout est remis en question. Et là, tu as l'impression de perdre ton temps. Et je nomme pas les noms, vous savez de qui je parle. C'est même pas un message subliminal, c'est juste pour que vous puissiez saisir pour toi dans ta réalité aujourd'hui. Et là, le sentiment, c'est que c'est foutu. Ou c'est peut-être pas foutu, mais je suis en train de perdre du temps. Tout ce que j'avais prévu, quelle perte de temps. Je tourne en rond, je trouve pas de travail, j'arrive pas à faire ce que j'avais fait, tous mes projets sont boycottés. J'aimerais te dire, la caverne est ce lieu où Dieu prend de son temps alors que tu penses perdre de ton temps. Il prend de son temps pour te former. Il prend de son temps pour te prendre dans ses bras. Il prend de son temps pour t'éduquer. Il prend de son temps pour te montrer un peu plus une facette qu'on avait oubliée ou ne connaissait pas de lui. Il prend de son temps. C'est l'image qu'on connaît tous de cet homme qui marche sur la plage et qui dit « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» Et puis il a dit « Mais en fait, ce n'est pas parce que je vois une seule trace de pas sur le sable. » Non, ce n'est pas que je t'avais abandonné. C'est juste que c'est moi qui te portais. Il y avait une seule trace parce que tu étais dans mes bras à ce moment-là. Ah. Oh, merci Père. C'est la fête des Pères aujourd'hui. Eh bien, le Père que nous devrions remercier plus que jamais, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est notre Seigneur, notre Père qui a donné son Fils unique pour nous sauver et venir avec nous dans la caverne de nos vies. Fête des Pères, fête à moi, fête à mon Seigneur, fête au Roi des Rois, fête à celui qui nous a sauvés. Fête à ce Jésus, honneur et louange à ce Jésus qui est venu dans la caverne de ta vie, de ma vie. Et peut-être ce n'est pas ton cas, mais il aimerait tellement venir dans ta caverne aujourd'hui. Je ne vous connais pas tous aujourd'hui. Peut-être tu fréquentes l'église occasionnellement ou tu es venu parce qu'il y a un ami, tu aimes bien l'ambiance, tu aimes bien la musique, tu aimes bien beaucoup de choses, je ne sais pas. Mais jusqu'à quel point est-ce que Jésus est dans la caverne de ta vie? Je t'invite à pas simplement aimer ou humer l'atmosphère, l'odeur et le parfum de comme on le ferait quand on passe devant une bonne boulangerie. Rentre dans la boulangerie puis mange dans le pain comme on l'a fait dans la Sainte-Seine. Plante les dents. Ça, c'est la version moderne de ce que Jésus a dit. Hein? Celui qui mangera de mon corps aura la vie éternelle, etc. Je paraphrase, je mélange plein de versets ensemble. Plante les dents dedans, goûte combien Dieu est bon. Ne reste pas seul dans ta caverne. Il est l'ami par excellence. Tu n'es pas tout seul ce matin, tu n'es pas tout seul aujourd'hui. On continue, 1 Samuel 22, verset 2, on continue. Et tous les gens qui étaient dans la détresse, donc les membres de sa famille qui sont venus, et tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes et tous les mécontents se rallièrent à lui. Wow, méchante atmosphère. Le gars, il va vraiment mal. Il doit fuir, il a connu le succès, il est dans la vallée de la défaite au point qu'il faut qu'il se réfugie dans une caverne humide, nauséabonde, etc., sans chauffage. Et là, non seulement sa famille vient, oh, moi qui veux la paix, non? Et tous les gens qui étaient dans la détresse, sans voir plein de pasteurs, dans, tous ceux qui avaient des dettes, et tous les mécontents de se rallier à lui. Ouais, tu sais, le gilet jaune, hein? Ah, puis tu sais ça, puis tu sais ça, ah, puis la politique, ah, puis alors la politique du roi Saül, puis son administration financière, puis lui, il en a marre, il veut juste, laissez-moi tranquille. Puis j'en peux plus, puis à cause de ce qu'il a mis en place, je suis dans les dettes, il réclame trop, il est dur, il y a ceci, il y a cela. J'arrive pas à gérer ma propre vie. Laisse-moi tranquille. Pour moi, être à la place de David, je me trouve une autre caverne. Je dis, OK, je vais juste aller faire pipi dehors. Tu mets une pierre devant. Pouf! Puis tu pries pour qu'il ressuscite, puis qu'il ne ressorte pas 3 jours après, tu sais. Ah, il est vraiment dans le trouble, le gars. Et tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes, tous les mécontents se rallièrent à lui. Waouh! Vous savez quoi? Ça, c'est vous et moi par rapport à Jésus. Tous les mécontents, tous ceux qui étaient dans les dettes, et là je ne parle pas de dettes financières, de dettes spirituelles, qui réalisent que j'ai beau faire des efforts, je ne serai jamais parfait. J'ai beau faire des efforts, j'arriverai jamais à m'acheter mon ciel par mes œuvres, par mon bon caractère, par tous mes efforts humains. J'ai beau, je suis dans la détresse, et là je vois un homme, j'entends parler d'un homme qui s'appelle Jésus, qui a vécu de la souffrance, puis un jour... Ben, je me rallie à lui. Moi, c'est ce gars-là que je veux suivre. Parce que ce n'est pas un homme comme tout le monde. C'est le Fils de Dieu qui, lui, ne méritait pas la souffrance et qui a souffert. Puis je me rallie à lui. Et Jésus, il est là dans la caverne de sa vie sur terre pendant 30 et quelques années. Et plusieurs, peut-être pas tous, mais plusieurs se sont ralliés à lui. Et des milliers d'années plus tard, il y a encore un nombre incalculable de gens dans la détresse, dans les dettes spirituelles, des mécontents qui se rallie à Jésus. Parce que Jésus n'est pas une théorie. Mais dans ces moments de caverne, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. David était aimé quand même, même s'il était pourchassé par le roi. Sixième leçon, soyons reconnaissants pour ces cavernes qui nous rendent plus humains et accessibles aux yeux de ceux qui souffrent. La plupart des fois où je parle avec des personnes où j'ai des commentaires du style « ouais, gna, gna, qui jugent et qui sont méchants », quand je commence à parler avec eux, je m'aperçois qu'il y a très peu de vécu. La plupart des fois. C'est facile de parler quand tu n'as pas de vécu. C'est facile d'accuser celui qui divorce quand tu n'as jamais divorcé. C'est facile d'accuser celui qui a fait tel choix d'orientation sexuelle quand ça ne t'arrive pas à toi, dans ton environnement. C'est facile de dire « moi, je ferai, moi, je ceci, moi, je cela, ouais, t'as pas souffert, mon homme. » Mais le jour où tu souffres, le jour où tu passes par la souffrance, même si ce n'est pas les mêmes souffrances exactes, il y a quelque chose dans ton cœur qui casse. C'est facile de juger ceux qui prennent des médicaments parce qu'ils sont en dépression ou en burn-out ou autre. C'est facile. Mais le jour où ça t'arrive à toi ou que ça arrive à quelqu'un qui est juste à côté de toi, il y a quelque chose qui casse. Et là, c'est drôle comment tout à coup, tu deviens beaucoup plus accessible, beaucoup plus humain, beaucoup plus compréhensif, beaucoup plus tolérant, beaucoup plus compatissant. Et ça, ce cœur-là, il se forme dans les moments de souffrance. Il y a bien des situations que je serais incapable de comprendre en tant que pasteur parce que je suis loin d'avoir vécu tout ce qui est possible de vivre, mais les quelques moments de souffrance que j'ai dans ma vie me permettent d'exercer une empathie sans faire d'effort. Mais dans mes moments de caverne, j'aurais donné tout l'or que j'avais au monde pour sortir de cette caverne-là. Mais si Dieu n'avait pas permis que je passe par ces moments de souffrance, eh bien, je n'aurais pas été cette personne en mesure de comprendre. Et là, je ne prétends pas comprendre tout. Je crois que j'ai encore tellement de choses, tellement à grandir en compassion, tellement. Mais ça passe par la souffrance. Alors, soyons sur le coup dans la caverne. Tu vis un moment difficile. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas pourquoi. Mais j'aimerais te dire, sois reconnaissant. C'est difficile. Tu vas le faire en grinçant des dents, certainement. Sois reconnaissant pour ces cavernes qui te rendent plus humain et accessible aux yeux de ceux qui souffrent. Parce que ton exemple dans la souffrance, ton intégrité dans ton célibat, par exemple, ton attitude malgré ton chômage prolongé, est une inspiration pour ceux et celles qui sont autour. Sois reconnaissant pour ces moments. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a envoyé la souffrance. Attention, ce n'est pas ça du tout que je dis. Mais que Dieu est assez Dieu pour, dans les pires moments de ta vie, faire jaillir ce qu'il y a de plus beau en toi. Et grâce à ces moments-là, tu vas pouvoir dire, « OK, moi, je te comprends. » Moi, je suis célibataire, j'arrive pas. Je trouve ça dur de me préserver, de me garder pur. C'est facile pour toi, t'es marié. Mais lorsque t'es célibataire, tu l'as vécu, tu peux dire, oui, t'as raison. Je l'ai vécu. J'ai peut-être pas un sans faute. Ou peut-être que j'ai un sans faute. Mais j'aimerais te dire que c'est possible, puis je comprends. Lorsque t'es dans une situation de chômage ou dans une situation de difficulté ou autre, eh bien, il y a des gens qui vont voir ça et dire, OK, lui, il peut me comprendre. Lui, il peut me comprendre. J'ai vu telle situation, moi, je peux aller vers lui. Lui va me comprendre. Vers telle personne, je ne peux pas parce que complètement déconnecté de la réalité, il va me juger, je ne peux pas, mais lui ou elle, elle va me comprendre. Et il va me comprendre parce qu'il a traversé la souffrance. Et sa souffrance va devenir pour moi un moyen de résilience, va me permettre de rebondir. Alors c'est dur, mais Dieu a un plan. Il se sert de toutes ces situations-là pour venir te relever. Septième leçon. La caverne offre l'occasion d'être définie en fonction de notre attitude dans l'épreuve et non en fonction de nos aptitudes lorsque les vents nous sont favorables. David a dû pardonner à ses frères, il a dû accepter leur aide. La caverne là, nous offre l'occasion d'être définie. Qu'est-ce qui te définit? Tes capacités? Tes aptitudes? Mes aptitudes ou mes attitudes? Et cette caverne-là permet de... C'est comme un laboratoire photo. Pff, révélation. De qui il est. Et David, là, c'est juste extraordinaire ce qui se révèle dans les développements de ces photos qui se faisaient comme à l'époque. On voit le cœur de David. Et comme j'aime le dire à chaque fois que je parle de David, ou presque chaque fois, lorsque David était berger, il y avait dans le cœur du David berger, il y avait dans David le berger un cœur de roi avant qu'il devienne roi. Il y avait dans le cœur de David, quand il était berger, il y avait déjà un cœur de roi. Un cœur noble. Et lorsqu'il est devenu roi, il y avait encore dans le cœur de roi de ce roi-là un cœur de berger. Et lorsqu'il a tout perdu, eh bien tu vois encore son cœur qui émerge, le cœur de David. C'est l'occasion, la caverne, de définir qui nous sommes à travers notre attitude dans l'épreuve plutôt que par nos aptitudes. C'est facile quand le vent est dans les voiles. Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui vient ici à l'église, je ne la nommerai pas. Vous savez qu'elle a une poussée en sclérose en plaques. Je pourrais la nommer parce qu'elle a fait un témoignage sur Top Chrétien, donc ce n'est pas très confidentiel. Jenny, je ne pense pas qu'elle va m'en vouloir beaucoup. Et prends les nouvelles, tout ça, comment ça va, tout ça. Puis, je suis à l'hôpital jusqu'à samedi. Puis après ça, je rentre. Et puis mercredi, je vais faire ça, ça, ça. Puis la semaine prochaine, je vais faire ça, ça, ça. Je ne dévoile pas ses plans, ça, c'est sa vie. Puis je dis, wow, moi j'écris, c'est un texto, j'écris, OK, mais je dis, wow, t'es une machine de guerre, toi. Avec tout ce que tu traverses, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire ça. Je dis, machine de guerre, pas tellement que ça. Je dis, non, justement. Mais justement, à plus forte raison, quand ça va bien, c'est facile d'être une machine de guerre. Mais alors que tu aurais toutes les raisons pour te démoraliser, boum. Peut-être que tu es pris avec une maladie, avec une situation de vie, et tu te sens comme un loser. Quand j'ai un loser, c'est un perdant. Ce n'est pas dans le sens péjoratif du terme. C'est comme quelqu'un qui est un perdant, comme quelqu'un qui ne sert à rien. Mais j'aimerais te dire, mais tu es un héros ou tu es une héroïne. C'est juste extraordinaire que tu sois juste là ce matin en train de louer le Seigneur. 5 personnes qui nous conduisaient dans la louange ce matin. Je prends leur exemple, mais je pourrais. Une des questions que je me pose quand je vais dans des ralliements et que je vois le gars prêcher en avant et que je vois l'équipe de louange, une des questions que je me pose, c'est quoi leur palmarès de vécu, de douleur? Est-ce que c'est facile pour eux de chanter? C'est quoi leur parcours de vie? Combien de cavernes est-ce qu'ils ont dû traverser? Puis quand tu commences à t'arrêter, puis quand tu as des personnes que tu connais un petit peu leur vie, tu dis « wow ». Là, tu n'écoutes plus la qualité du chant, la performance de l'orateur et tout. Là, tu dis « ouais, sa vie est une adoration à Dieu ». Parce que c'est juste miraculeux que cette personne se trouve derrière un instrument ou en train de parler de ce que Dieu fait dans sa vie ou dans la vie de ceux qui veulent bien l'accepter. Quand ça va bien, c'est facile. Un bon joueur, un bon sportif, un expert dans quelconque domaine, tu le reconnais quand il lui manque une pièce, il faut qu'il se débrouille. Tu le reconnais quand il est blessé. C'est là que tu vois la force du coureur, la force de l'expert. C'est quand ça va mal. Alors si dans ta vie ça va mal, j'aimerais te dire, waouh, merci Seigneur pour l'exemple que tu es, parce que tu es une inspiration. Quand je vois des hommes comme Didier parmi nous qui traversent situation de cancer et tout ça, puis qui a toujours le sourire, sérieusement là, tiens, prends mon micro puis prêche à ma place. Come on! Sérieusement, là, quand je regarde vos vies, ça ne fait pas des mois, ouais, c'est ça en fait, ça fait quelques mois que je suis avec vous, même pas encore une année. Mais les quelques scénarios de vie que je connais de vous, j'ai envie de prendre le micro et dire « Ok, Pierrick, passe ça, mets le volume sur telle personne. » Parce que ta vie est un témoignage. Quand ça va bien, c'est tellement facile. Mais quand ça va mal, et tu es encore là, et tu pries encore, et tu es encore marié, tu es encore en train de lutter, même si tu as divorcé, tu es encore en train de garder la foi, tu es encore en train de chanter, tu es encore en train de sourire, alors que tu es dans une caverne de douleur, j'y prends mon micro, puis dis-nous comment est-ce que Dieu est bon. Ne décourage-toi pas. Quand je regarde les personnes âgées, les aînés au milieu de nous, j'essaie d'imaginer le nombre de cavernes à laquelle vous avez dû traverser. Je dis, wow, respect. Vous avez traversé des moments qui nous inspirent encore aujourd'hui. Et il devint, 22-2, je vais terminer, il devint leur chef. David devint leur chef. Il y eut ainsi quelques 400 hommes. 400, hey, 400 là, c'est à peu près, grosso modo, 4 à 5 fois la place d'ici. Méchante caverne. Imagine ça, remplie de mécontents, de frustrés de la vie. Il devint leur chef. Il y eut ainsi quelques 400 hommes qui se regroupèrent autour de lui. Il y avait des hommes de qualité, il y avait un prophète, il y avait un sacrificateur, il y avait des guerriers. Ces hommes-là vont devenir le futur gouvernement de David. C'est dans cette caverne-là de douleur, d'incompréhension, de solitude, de rejet, qu'il y a une armée que Dieu est en train de lever autour de David pour remporter d'autres victoires. Et regardez, ne me perdez pas. Je pose une question. Qui est le leader de la caverne? Je relis. Et il devint leur chef. David devint leur chef. Il y eut ainsi quelques 400 hommes qui se regroupèrent. Qui est le leader de la caverne de ces 400 hommes? Qui est le leader? Question-réponse, on interagit. Non! Ce n'est pas David! C'est Dieu lui-même! Prochaine diapo, le leader de la caverne n'est pas David et ses vaillants guerriers, mais c'est Jésus le bon berger. Parce que si Dieu n'était pas là, il n'y aurait pas de David. Si Dieu n'était pas là, il n'y aurait pas eu de réponse à sa prière. Si Dieu n'était pas là, on ne serait pas en train de lire son histoire. Si Dieu n'était pas là, tu ne serais pas aujourd'hui présent dans ce lieu. Si Dieu n'était pas là, Philippe n'existerait simplement pas. Le vrai leader des leaders, parce qu'on fait souvent quand on lit l'évangile de l'anthropocentrisme, centré sur l'homme. C'est ça qu'on dit, anthropocentrisme. Allez, on sort un nom savant, ça fait toujours bien. Mais on lit notre Bible avec anthropocentrisme, alors que nous devrions lire notre Bible avec un christocentrisme. Le héros de la Bible, le héros de ma vie, le héros de ta vie, le héros du CEP, le héros des églises de Gex, le héros de ce pays de Gex, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est lui et lui seul. C'est jusqu'ici, vous disiez, ah ben là, ouais, on le voit venir, le leader de la caverne, pasteur machin, c'est lui le leader. Non, il n'y a pas de leader ici, c'est Jésus. C'est Jésus le leader, parce que s'il n'y a pas Jésus, il n'y a personne. S'il n'y avait pas Dieu à cette époque-là, David, il est mort. Il n'y a même pas de réponse à sa prière. C'est lui le vrai héros, c'est Jésus. Lui-même, David va dire, délivre-moi, délivre-moi, oh Père, délivre-moi, puis je te garantis qu'on va faire un méga concert de louanges à ta gloire. Mais dans cette caverne, Dieu est en train de former des leaders. David en fait partie, évidemment. Vous lirez, c'est des vaillants guerriers qui peuvent combattre à l'épée avec la main gauche, la main droite. Ça ne pose pas de problème, main gauche, allez, je te manie les épées. Ils ont été formés. Ces gars-là, là, ils étaient dans l'amertume. Mais Dieu les a formés. La caverne, leçon 9, la caverne est ce lieu de formation divine qui transforme les losers en leaders pour sa gloire. Les losers, les perdants. Tu penses que tu as perdu, tu penses que tu ne seras rien. Il y a une transformation qui est en train de prendre place, comme je l'ai exprimé tout au long de ce message. Et je termine avec presque. Mieux vaut être, avant-dernière leçon, mieux vaut être dans une caverne humide avec Jésus que dans un palais parfumé sans Christ. Mieux vaut être dans une caverne humide avec Jésus que dans un palais parfumé sans Christ. La caverne n'est pas interminable, mais elle est indispensable. Tu as besoin de ces moments-là. J'ai besoin. Je cours pas après, par exemple. Je vais vous dire, je cours pas. Non. Quand même, il y a des limites à la folie. Là. Mais quand ils sont là, accueillons-les. Et David, alors qu'il est là, Dieu est en train de préparer une relève. Et ça passe par les hommes, et David va préparer une relève. Les gens vont le voir. Puis à un moment donné, vous lirez, si vous voulez, chez vous, il n'est pas à l'écran, 1 Samuel 24. À un moment donné, je ne sais pas si c'est la même caverne ou quoi, mais à un moment donné, le roi Saül arrive. Et il s'accroupit. Là, c'est la Bible qui le dit. Hein. Il s'accroupit pour faire ses besoins. Et tourne le dos à David. Et c'est littéralement écrit. David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. Et les compagnons lui chuchotèrent en disant, « Eh, voici le moment. » Voici le moment par l'Éternel. Il te le livre entre ses mains. Vas-y. En silence. Fini. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de fuir. Et la seule chose que David va faire, et ça va l'effrayer même, il s'en est voulu, il va couper un morceau de son manteau. Il est en train de faire ce besoin. David arrive, il coupe, il s'en va. Il l'épargne. En fait, il est en train de donner toute une leçon sur « Tu ne te vengeras pas ». Laisse à Dieu, là, c'est lui le grand leader. Laisse-le gérer. Laisse-le gérer la situation. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a dû prendre place dans le cœur de ces hommes-là, parce qu'il était un exemple dans sa douleur. Et je prie que chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune fille, nous puissions être un exemple dans notre foyer, dans notre réalité, dans notre travail. Est-ce que les musiciens peuvent venir? J'ai terminé. Que nous puissions être un exemple. Je salue tous les hommes, les maris, les époux, les pères de famille qui, dans ce lieu, en silence, portent, se sentent jamais suffisamment à la hauteur, ont toujours le sentiment de ne pas faire assez, mais qui êtes encore là et vous vous battez. Notre objectif comme homme et comme individu large, sans exception, c'est de suivre Jésus. Ne cherchons pas à être de meilleurs leaders, cherchons à être de meilleurs suiveurs. Le reste va suivre. Cherchons à être des meilleurs suiveurs, c'est ce que David a été. Avec ou sans les acclamations, David a dit, Seigneur, tu es mon seul abri. Tu es mon seul abri, Seigneur. Peut-être que tu es dans une situation, un scénario qui a changé pour ta vie. Puis tu dis, moi, ma caverne, là, c'est fini. J'aimerais te dire, la caverne, ce n'est pas le moment où tout se termine. C'est le lieu des nouveaux départs. C'est le lieu des nouveaux scénarios. Ah, ce ne sera plus comme avant, c'est sûr. Ça fait partie du processus du deuil. Mais plus comme avant ne veut pas dire moins bien qu'avant. Il faut juste dire plus comme avant. C'est le moment où Dieu te dit, OK, j'ai un autre scénario pour toi. Et à ceux et celles qui frôle Jésus sans vraiment le consulter régulièrement, faire de lui ton guide, croque dans le pain à pleines dents, puis dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te suivais, mais je te suivais à moitié. Je te suivais. Est-ce qu'on peut se lever, juste élever le nom du Seigneur, et on va finir par trois annonces, après ce sera terminé. Bénis soit ton nom. Est-ce qu'on peut applaudir celui qui est notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui nous dirige? Yes, Seigneur, on t'aime. Merci, merci Père. Merci Seigneur pour sa fidélité. 3 annonces à vous communiquer avant de vous relâcher. J'invite Nancy à venir faire une annonce. C'est la 4e en fait qui devient la première. Je pense que ça marche. Ouais, tu parles fort.
Bonjour à tous. Ça sera bientôt l'été et juste après l'été, on va avoir notre week-end d'église. Donc on a mis dès aujourd'hui les inscriptions, puisque comme il y aura des départs et autres, pour avoir rapidement les inscriptions. Ça sera le 7 et 8 septembre à Champfleury. J'ai mis derrière un tableau, mais vous allez recevoir par mail un doodle. Donc ceux qui sont plus informatiques, je préférerais sur le doodle. Mais voilà, si vous vous inscrivez sur le tableau, ça sera quand même, on tiendra compte de ça. Et dernière chose, les places sont limitées. L'année passée, on était plus que full. Cette année, on ne pourra sûrement pas être autant. À 5 personnes près, ça fait quand même 90 personnes normalement. Donc si vous savez que vous êtes là, inscrivez-vous rapidement. Et puis je ferai au fur et à mesure les annonces des places restantes. Pour passager ce temps tous ensemble. Il y a toutes les indications de prix, de choses, ça ne change pas de l'année passée, c'est le même endroit. Mais si vous avez des questions, après, bien sûr, je reste disponible pour vous répondre. 7 et 8 septembre.
Super, merci beaucoup. Yes, moi je me réjouis, c'était ma première fois l'année passée, c'était vraiment super. J'ai redécouvert la pétanque. Yes. Rapidement, ça c'est la prochaine diapo. Bon, je sais pas si vous le voyez bien, mais le club de 52 enfants hier après-midi. Allez, bravo à nos monos, à nos ados qui étaient là aussi, qui ont géré. En passant, c'est les ados qui ont fait le thé café ce matin, sérieusement. Good job. J'ai passé rapidement. C'est quelque chose. 52 enfants, là, c'est waouh. Merci vraiment à chacun, à chacune de vous aussi pour tout ce que vous avez fait. On va voir avant cette annonce-là, le mardi, le 18. Donc, cette semaine, on a la rencontre des aînés à 14h30. On fait passer le mot. Donc, 14h30, les aînés. Le 22 juin, 9h30, si t'es pas inscrit, tu peux encore t'inscrire. On a un doodle. Viens voir un des gars de l'église. Ils vont pouvoir te dire où et quoi et comment faire. Mais on a une journée complète, frères d'armes, un moment d'inspiration, temps de louange, quelque chose qui est sur mon cœur. Après ça, on va manger spaghettes à la bolognaise sur le coup des midi, rapido presto, parce qu'après ça, on monte en haut. Non, j'ai pas fait, non. Monte en haut. Comment bien finir un culte? On monte en haut au col de la Faucille avec plusieurs activités à choix. Alors, si t'es plus paintball, comme David, un homme de guerre, t'as paintball. Si t'es plus mode relax, la pétanque, si tu veux juste prendre une marche parce que physiquement, peut-être que t'es moins en forme ou peu importe, tu peux prendre juste simplement une marche, accrobranche. Donc, on va passer l'après-midi ensemble et on redescend vers 17h30, 18h, méga barbecue time ici. Donc, tous les hommes de l'église, vous êtes invités à partir de 18 ans jusqu'à 118 ans. Donc, après 118, par contre, on hésite un peu. Donc, c'est ce samedi 22 juin, 9h30, frères d'armes. On va vraiment avoir du fun, on va vraiment avoir du plaisir. Donc, c'est pas trop tard pour t'inscrire. Et voilà. 23 juin, regardez bien cette annonce-là. C'est la semaine prochaine, dimanche, notre culte de la semaine prochaine. Ne venez pas ici. Les portes seront fermées. Il n'y aura personne. On va être dans la montagne. Je lève mes yeux vers la montagne d'où viendra le secours. On va être là. On va être plus proche de Dieu. Il paraît que tu es plus proche de Dieu quand tu montes. Non. On va le savoir la semaine prochaine. Donc, alors, vous avez toutes les informations. À la Yacherolles, on a rendez-vous à 10h30 au parking. Il y a un véhicule qui va venir vous récupérer, qui va venir récupérer vos pique-niques. Là, je me suis cassé la tête. Comment on écrit pique-nique? Ben, je sais, il y en a plusieurs. Oui, ça n'écrit pas comme ça. Bon, j'ai regardé Google et compagnie. J'ai vu plusieurs versions. Il semblerait que c'est comme ça. Après ça, la deuxième question, c'est pluriel, singulier. En tout cas, bref. On veut juste un pique-nique. C'est tout. OK. Comme ça, je viens d'atteindre toutes les pensées. Ouais, c'est que non, on continue l'annonce. L'adresse, parking du centre nordique de la Vatay. Alors, parking du centre nordique de la Vatay. Vous montez le col de la Faucille, direction les Rousses, 3,5 km à peu près, sur votre droite, vous avez le parking. Je sais que la plupart d'entre vous, en fait, c'est vous qui devriez dire, mais Philippe, on sait, ça fait des années, il y a juste toi ici qui ne sait pas. Non, il n'y a pas juste moi, il y a plusieurs personnes qui viennent pour la première fois, qui ne sont jamais à Yacherolles. Alors voilà, si l'adresse, c'est ouvert à tout le monde, tu veux venir avec des amis et là... Nos amis de la Yacherolles les ont. On va être peut-être 150, mais on va vraiment encore une fois avoir du plaisir. Amenez votre pique-nique, puis après ça, si vous voulez partager ou quoi, bref, on s'organise. Et il va y avoir une marche, depuis le parking, il va y avoir une marche d'à peu près 1 km, juste que vous le sachiez. Il va faire froid, hein, la petite note en bas, ça c'est la petite notice, tâche annexe, ça c'est toujours ça qu'il faut lire dans les contrats. 1300 mètres d'altitude, ça veut dire qu'il fait un petit peu frisquet. Et s'il fait soleil, il fait très chaud. Mais, au cas où il ne fait pas chaud, plan B, la petite laine. Ça va? Hey, merci pour votre patience. Je sais que j'ai encore pris beaucoup de temps pour prêcher. Je voulais vraiment faire un message court. Je vous demande sincèrement pardon. Non, arrêtez. Faites pas ça. Merci beaucoup et surtout, n'oubliez pas, on vous souhaite une bonne semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde.